est dans les mythes et les contes de fées ou la poésie. Les poésies médiévales.
Alors ça, c'était UK. Voilà.
Et en français, au moins, littérature.
Que ce soit Amazon FR ou SCD. D'accord,
c'est bon ça.
Alors déjà, effectivement, vous étiez à Amazon, on pense que c'est uniquement, mais en fait, pas du tout. Et là, c'est effectivement, il y a une catégorie, roman, enfin, en tout cas, il me semble que ni Amazon.fr, ni Amazon UK ne mentionne qu'écoute. Logique, je pense que c'est un vendeur, hein, c'est vrai. Mais le roman peut-être un peu plus, mais celui qui ne connaît pas et qui va partir de roman, il va se trouver avec le lycée, il va être un peu surpris. Voilà. Qui a regardé le lycée dans le, sur la bibliothèque autour, sur le SCD? Oui, vous avez trouvé. Et donc c'était ce mot épique qui se trouvait où? Voilà, mais c'était pas dans la rubrique sujet. Voilà. Bon, parce que vous avez remarqué que dans les métadonnées des bibliothèques universitaires, il y a bon, la description d'auteur, etc., parfois un résumé, et il y a un sujet. Et derrière sujet, vous avez parfois, effectivement, des indications de domaine, littérature, histoire, etc. Et il pourrait y avoir roman ou épopée. Moi, je n'ai pas trouvé l'épopée, effectivement, mais il peut y avoir un adjectif comme épique. Pour Madame Bovary. Oui. Vous avez quand même trouvé roman. Et là, partout. Remarquez aussi une autre différence entre Amazon français et Amazon anglais pour Madame Bovary. Oui. Madame Bovary est un mystérieux. Alors voilà, le mot qui est important, c'est fiction. C'est que fiction n'est pas intégrée dans, on va dire, l'anthologie, je vais dire ce terme, l'anthologie des genres en français. Or, c'est un méta-genre qui est maintenant très, tout à fait adopté dans la description des ouvrages, et pas seulement des ouvrages aussi, hein, des films. C'est une notion qui est par rapport à laquelle les descripteurs français, les documentalistes ont beaucoup de réticence. On peut partir des romans, mais romans, c'est comme si c'était l'archigenre. Au-dessus de romans, il y a effectivement fiction, c'est aussi le sens qui n'est pas factuel. Alors pourquoi je fais réfléchir là-dessus? Parce que c'est important. Quand on fait une édition, de pouvoir y associer des termes génériques qui vont permettre de trouver ce texte dans un corpus ou dans un ensemble de corpus. Si vous ne savez pas ce que vous cherchez, si vous ne connaissez pas Madame Bovary, et que vous aimeriez savoir ce qu'il y a comme fiction du XIXe siècle, des fictions qui ne sont pas seulement des romans. Dans une anthologie des gens français, vous n'allez pas le trouver. En revanche, sur Wikipédia ou dans le système anglo-saxon, vous allez pouvoir rentrer par là. Alors, c'est important parce que quand vous avez un corpus de texte, pouvoir donner, indiquer dans les métadonnées, et éventuellement dans l'exécution du texte, quel est le genre de ce texte. Parce que ça va permettre à celui, on ne sait pas ce qu'il va trouver, justement, de trouver des textes qui correspondent à sa requête. Et pour ça, il faut qu'il y ait un bon moteur de recherche, bien sûr, de l'enquête, il faut qu'il y ait des facettes et des filtres, les termes, qui lui permettent de trier dans les métadonnées ce qui correspond à un certain genre. Imaginons que vous vous intéressiez aux épopées, vous souhaitez savoir ce qu'il y a eu comme épopée depuis l'Homère jusqu'à l'Iliade ou jusqu'à maintenant. Mais vous n'avez aucun moyen de savoir. Alors, c'est quand même basique. C'est quand même. Quand on cherche à lire, on veut savoir ce qu'on va lire. Alors, si vous allez dans une bibliothèque ou vous allez sur Amazon, vous êtes guidé quand même par le genre. Que vous ayez demandé conscience ou pas. Puisque Amazon, qui est très bien fait, va vous guider et va vous offrir. En dessous avec des livres de la même catégorie générique. Et en fait, quand on regarde sur le site même, cette catégorie générique, elle apparaît sur la frame gauche. Donc, vous allez savoir effectivement s'il va être dans le mystery quelque chose. Que ce soit une adaptation quand même, dans le thriller ou le mystery, je trouve que voilà, c'est pas. Alors, ce qu'on a fait au sein du corpus gagné, c'est qu'on a constitué un groupe de travail, une typologie textuelle, pour constituer un thésaurus, justement, qui guide les éditeurs de corpus, qui les guide pour donner, déterminer les genres, pas forcément un seul, mais plusieurs genres, plusieurs catégorisations de genres pour les textes qui existent. Ou qui n'éditent pas d'ailleurs, parce que ça pourrait très bien fonctionner pour une base de flexibilité, de texte que l'on nous donne comme une image. Or, effectivement, c'est l'anarchie totale dans la documentation à ce niveau-là. Et en fait, comme modèle, on a pris un modèle de thésaurus archéologique. On cherche ce modèle. Et donc, le thésaurus qui a été élaboré par le consortium NASA, donc en partie. C'est un outil de construction des thésaurus qui s'appelle Open Thézo, et on l'utilise pour les gens. Il a été prévu pour les objets archéologiques, mais finalement le même outil peut être utilisé pour placer les gens. Alors, bon, je vous remercie à certains de vous parce qu'on va pas avoir le temps de faire tout ça. Donc, voilà une capture d'écran de cet outil, de ce logiciel là, qui est. Accès libre, il est gratuit, etc. Mais on a commencé à mettre dedans des éléments, des descripteurs de genre. Alors, ce n'est pas du tout complet. Et vous pouvez d'ailleurs aller à l'adresse du site, vous-même aller voir comment les menus sont déroulés. Donc là, c'est une partie de thésaurus, parce que c'est quand même assez long, on ne peut pas tout montrer sur une capture d'écran. Et vous voyez que le thésaurus est fabriqué de façon à distinguer les domaines de texte, qu'on va appeler les disciplines, etc. La factualité, je disais tout à l'heure, c'est très important qu'il y ait la distinction entre la fiction et la non-fiction, parce que actuellement, s'il y a vraiment, si le lecteur s'attache à quelque chose, c'est de savoir si on va le raconter, c'est vrai ou si c'est pas vrai. Alors parfois, on ne sait pas. Parfois, les auteurs disent que c'est vrai, ça n'est pas, et inversement. Mais il y a quand même un étiquetage qui est fait, ne serait-ce que par l'éditeur lui-même. L'éditeur ne va pas dire, ah, ben, je ne sais pas, donc il faut que ce soit clair. Après, le lecteur peut s'apercevoir qu'il en est autrement. Et ça, c'est autre chose. Donc, vous voyez qu'on peut aussi rentrer dans le corpus par cette porte-là. Il y a la porte de l'étiquetage de genre. Généralement, se met dans les métadonnées, dans le header, s'il s'agit d'un texte en TLI, ou à l'intérieur des divisions, parce que vous pouvez avoir un texte qui a différentes parties qui ne relèvent pas du même genre. Vous avez tout à faire un texte où il y a des sonnets, par exemple, une vingtaine de sonnets, et puis vous avez des dialogues, et puis vous avez des pièces d'éloge, etc. Bon, c'est bien aussi, cet ensemble-là, ça fait quoi? Au fond, ça s'appelle un livre. On n'a pas trouvé d'autre terme générique que le terme de livre. Et effectivement, c'est-à-dire qu'il n'existe nulle part dans les descriptions, alors que c'est la seule qui correspond à un ensemble hétérogène de genres différents. Et en même temps, c'est très intéressant de marquer aussi qu'il y a des sonnets. Parce que si vous faites une étude sur les sonnets, quels sont les textes dont, il y a aussi des tranches chronologiques, hein, on ne les voit pas là, de telle période à telle période. Quels sont les textes dans lesquels on trouve les sonnets ou ne serait-ce pas, à partir du moment où il a été marqué, il apparaît et vous apercevrez que dans le roman de je ne sais pas qui, eh bien, il y a la banque qui écrit le sonnet pour sa mère. Sinon, comment allez-vous le trouver? Ça n'est pas si facile. Hein, ce n'est pas marqué, si vous n'avez pas lu même le roman, vous n'allez pas le trouver. Donc, on a la différence entre la factualité qui est un élément important, hein, et dans la. Marx, commençons par le domaine de texte. Alors, il en manque, hein. Tout n'est pas, on n'a pas tout expliqué. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'ailleurs comme domaine pour Marx, pour le Capital? Oui. Alors, spontanément, non, on parle. C'est un problème politique. Oui, voilà. Et en fait, il y en a qui mettent économie, il y en a qui mettent politique, par exemple, dans la base de données allemande, c'est économie. Parce que c'est intéressant, parce que c'est un texte en allemand, quand même. Voilà. Et donc on peut, dans le thésaurus, on pourra cliquer sur économie et politique. Rien n'empêche qu'il y ait plusieurs disciplines en même temps. Donc, voilà. Là, on va rajouter économique et politique parce que c'était pas. En revanche, pour la factualité, alors pas trop d'hésitation pour le Capital. Voilà. Mais non-fiction. Enfin, voilà. Globalement, consensuellement. Et puis pour la forme de texte, la prose. Donc vous pouvez pour chaque texte, mais vous n'êtes pas obligé de cocher dans tous les domaines, à chaque fois. Mais ce qui est intéressant dans un film, le genre, ça se continue là, et on va voir le genre traité. Et pour le Capital, effectivement, on va le mettre dans le genre traité. Pour être d'accord, alors pourquoi ce type de thésaurus est intéressant? C'est aussi parce que d'une part, il peut être bilingue. Donc, il y a tout un système qui permet effectivement les traductions. Parce que c'est bien joli de donner les genres en français, mais il faut quand même difficilement se mettre d'accord sur un genre, sauf pour des textes aussi internationaux, comme le lycée, comme Madame Bovary, et que le Capital, il faudrait se mettre d'accord quand même sur la classification. Or, donc, avec le thésaurus, chacun de ces descripteurs va pouvoir avoir un identifiant pérenne. Avoir un identifiant, il y a deux genres certains d'ailleurs, il y a un identifiant ARC. Les identifiants ARC, c'est ceux qui sont distribués par la DNF, mais il y a aussi les identifiants Handel, vous avez déjà tout ça en Handel, qui sont les identifiants internationaux. Alors, ce sont généralement des identifiants longs comme ça, mais en fait, quand vous éditez un texte et que vous mettez, surtout s'il a des heures en TEI, vous mettez juste un pointeur qui va aller vers le thésaurus avec le numéro de l'identifiant qui va se mettre automatiquement. Le numéro d'identifiant, il va être à sa mettre ici. Donc, vous allez avoir pour chaque terme, je vais vous dire comment il s'appelle ce terme, pour chaque terme, vous allez avoir un identifiant qui sera le même pour tout le monde. C'est-à-dire vos proses, enfin, le terme de prose, il aura son identifiant, il aura son numéro, sa carte d'identité, son numéro, si vous voulez, qui sera le même pour tout le monde. Alors, ça, l'avantage, effectivement, c'est que c'est translinguistique. On n'a pas, justement, à écrire exactement le terme sur le français en anglais et tout ça. Alors, chacun de ces termes, j'appelle les termes, descripteur génétique, en fait, ça s'appelle, dans le langage utilisé par OpenGeno, ça s'appelle un concept. Alors, c'est une gymnastique un peu difficile pour nous, parce que l'ensemble du thésaurus dépend de l'ontologie, et dans l'ontologie, la base de l'ontologie, c'est un concept. Alors, il faut laisser de côté toute la métaphysique qu'on a appliquée dans le cours de philo, ça n'a rien à voir, pas grand-chose à voir. Normalement, la base de l'ontologie, c'est ontos, ça veut dire que c'est un étang. Bon, ils n'ont quand même pas osé appeler ça des étangs, je ne sais pas comment ça s'écrit déjà, donc ça va être un concept. Et dans la description documentaire, actuellement, effectivement, le mot de concept devient absolument dominant. Alors, ça a quand même l'avantage sur les abstraits, c'est sûr. Et donc, du coup, comme c'est abstrait, enfin, quand je vais plus abstrait que le concept, ça permet de comprendre qu'en fait, derrière le concept, c'est le numéro qui compte. C'est pas un référent, c'est le numéro qui correspond en fait à un identifiant qui est standard, qui va être adopté par le bon, donc là, mais, par exemple, le concept de vert, VRS, mettons du numéro 15. Donc, peu importe, c'est le numéro 15. Donc, si dans votre description d'émission, vous avez mis dans les mots-clés le numéro 15, vous n'avez pas besoin de dire que ce sont des verts. Voilà, c'est comme ça. Ça sera intégré automatiquement parce que ça va se référer justement au thésaurus. Donc, l'ensemble constitue une ontologie. Chaque descripteur est un concept, et à partir de ça, on peut effectivement, en utilisant OpenGeno, prendre tous les genres de textes qui nous intéressent et les décrire de façon, on ne peut pas dire exhaustive, parce que rien n'est jamais exhaustif, mais on peut les décrire de façon à donner justement des classifications génériques. Qui correspondent pour certaines aux classifications des éditeurs, des marchandises, hein, comme Amazon, qui sont finalement pas si. Bien sûr, bon, il y a le prix à côté, bon, ouais, pour vendre, hein, mais ça sait très bien que quand un acheteur ou un lecteur va sur un site comme ça, il a une attente. Et donc, construit son ontologie, c'est son ontologie en fonction de ses attentes. Et évidemment, ses attentes elles-mêmes sont statistiques, c'est-à-dire sont en fonction aussi de ce que les lecteurs ont déjà acheté, que ces attentes vont être précomblées. Et en même temps, on voit bien qu'ils sont en communication avec les descriptions des bibliothèques documentaires du monde anglo-saxon. Parce que justement, ils ont fait apparaître la grande catégorie de fiction, qui n'ont pas encore le droit en France. En revanche, en France, ça commence à arriver dans les bibliothèques. Dans les bibliothèques des livres. Donc on va avoir, alors qu'avant, on avait des rayons seulement avec romans. Et maintenant, on commence à avoir des rayons avec fiction. Donc ça montre qu'on est en train de changer de concept. On est en train de remonter d'un cran, en fait, dans la. De la description chez nous. Alors, c'est intéressant parce que justement, la question du vrai et du faux est absolument fondamentale par rapport à un texte. Et on peut, alors, on a quand même prévu la catégorie mixte, hein, il peut y avoir les deux, il peut y avoir un texte philosophique, c'est du côté de la non-fiction, donc du vrai, mais dans lequel il y a des mythes, hein, comme on dit par Platon. Si vous voulez marquer les mythes de l'ancien à l'intérieur, pourquoi pas, c'est possible. Donc il y aura quand même une dominante. Donc, et la dominante, justement, elle apparaît comme dominante dans la mesure où il va y avoir un genre dominant dans lequel il y en aura d'autres. C'est ça qui va être important. Donc voilà, donc l'idée, c'est d'enrichir aussi les relations entre les gens. Alors j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit que en fait, le réseau était fondé sur un langage. Alors, je ne connais pas grand-chose, je ne suis pas un forme officielle, mais je trouve que ce langage est très intéressant. Alors, c'est un langage qui est fondé sur le triplet RDF, je ne sais pas si vous connaissez ça. personne. Oui. Donc, on peut expliquer. Et vous aviez roman qui se trouve en dessous, roman historique qui se trouve encore en dessous, roman vrai, et vous avez des récits de l'âge, etc. Mais le récit n'est pas forcément une fiction. Vous allez pouvoir manger à l'écran. Alors, ce langage de source, c'est effectivement pour l'action avec le RDF, c'est un langage, c'est pour le knowledge organization system, et pour les sur les critères. Et avec effectivement cette structure, sujet, prédicat, objet. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré une liste. Mais en fait, quand on rentre dans un thème des eaux, on va pouvoir indiquer une relation. Et alors, malheureusement pour moi, les relations ne sont pas assez précises, mais vous avez quand même la relation genre-espèce que vous pouvez déterminer. Vous pouvez dire que l'épître est un sous-genre de la poésie. Donc, en prédicat, j'ai mis, est un sous-genre de. Pour le discours, je veux dire, c'est un sous-genre de la prose. La préface, c'est un sous-genre de la prose aussi. Mais vous pouvez aussi imaginer d'autres relations. Alors, au peuple des eaux, c'est une relation d'association, donc c'est pas précisé. Et rien n'empêche de préciser cette relation d'association comme étant une association de genre à l'espèce, ou bien de partie à tout, parce que par exemple, dans un recueil, vous avez, ce sera un ensemble de privilèges, c'est-à-dire l'autorisation de l'utilisation de publier, ça sera une partie d'un livre. Donc vous avez en fait des relations hiérarchiques de genre à l'espèce, qu'on le connaît généralement, c'est ça qu'on connaît généralement dans les hiérarchies de genre, mais vous avez aussi des relations de partie à tout. Et ça, c'est important, parce que pour les livres de ces essais. Et vous avez des relations aussi, on pourrait dire, adjointes. Il n'y a pas, c'est ni relations de genre à espèce, ni relations de partie à tout. C'est simplement qu'il y a deux genres qui sont continus. On n'a pas besoin de préciser davantage. Et ça, justement, M. Pierre me l'a rappelé, on en parlait tout à l'heure, c'est la catégorie des adjoints. Les adjoints, ça veut dire ce qu'on veut dire, ben, voilà, on les a mis, moi, à côté de l'autre, mais on ne précise pas davantage la relation. Voilà. Donc, ce langage est très intéressant pour préciser, justement, ces relations entre les gens, et ça permet aussi de naviguer soi-même, de réfléchir, en fait, à ce qu'on est en train de faire. Une édition numérique, mais qu'est-ce qu'on offre en fait, au lecteur? Qu'est-ce qu'il va avoir comme attente et qu'est-ce qu'on va remplir comme attente? Alors, donc, ce sont, là on arrive dans le domaine des ontologies, c'est-à-dire des organisations de concepts en fonction d'une discipline, en fonction d'objets d'études, en fonction d'intérêts particuliers. Open TESO, c'est un thésaurus, un vocabulaire, aussi comme ça, qui est fondé sur une ontologie. On peut dire que la théorie, j'en ai discuté avec le journal, est aussi une ontologie. C'est-à-dire, on a une certaine conception du texte, quand on encode en théorie, qui est une conception fondée sur le langage XML. Et le langage XML, c'est une certaine organisation conceptuelle d'un texte. Effectivement, avec des chevauchements ou pas, des interdictions de chevauchement, des relations d'imbrication, etc. Donc on est dans des relations conceptuelles qui s'expriment au moyen d'ontologie. C'est intéressant d'y réfléchir. Ce sont des informaticiens qui se sont emparés de ce terme d'ontologie, ce qui est un peu gênant au départ, mais c'est un peu. Donc, tout ce qui est, ce dont on entend parler de big data, tout ça, un link, c'est un lien. Ça ne veut rien dire. Enfin, c'est rien. Enfin, si vous mettez un lien, c'est que vous avez pensé à la nature de ce lien. Et la nature de ce lien peut être justement une relation hiérarchique, une relation d'adjonction, une relation de tout à la partie. Et donc, les liens hypertextes, c'est voilà, là, ça, une relation avec plein d'autres choses, mais on ne précise pas la relation, et ça peut vous emmener loin de lien en lien, on est parti vraiment loin du sujet. Avec ce système d'ontologie, c'est plus structuré, et on sait davantage, effectivement, à l'intérieur de quelle arborescence on prend la vie. C'est pas seulement une arborescence, parce que quand on pense à arborescence, c'est seulement genre espèce, seulement les racines, les branches, les feuilles. Hein. Alors que là, quand vous avez les adjoints et le tout et la partie, c'est un peu différent, c'est plus précis. Alors tout ça permet aussi de réfléchir aux modélisations spatio-temporelles telles que vous les voyez parfois dans certains. Vous avez le logiciel GFI qui vous permet de visualiser justement les relations, n'importe quelle relation. Hein. Et vous allez avoir justement des graphes qui vont vous représenter. Vous allez pouvoir convertir votre réseau en graphes, ce qui est très spectaculaire. Mais généralement, les graphes, c'est intéressant pour celui qui l'a fait, pas tellement pour celui qui le regarde, parce que s'il n'a pas suivi l'opération qui amène au graphe, c'est joli, mais pas forcément. Il faut attirer l'attention sur les nœuds, je ne connais pas. Mais les graphes, c'est intéressant justement parce que y a des nœuds, et ce n'est pas seulement une arborescence. Alors, tout ce qui est relation avec les nœuds est effectivement très à la mode actuellement, puisque on va considérer que le modèle neuronal artificiel est construit là-dessus, enfin, construit sur. Des liaisons neuronales qui limitent les liaisons neuronales biologiques, et c'est à partir de ces liaisons neuronales artificielles qu'on va construire des statistiques qui ne sont pas seulement des calculs de probabilité, on va dire à l'ancienne, mais des statistiques qui vont rendre compte aussi des phénomènes récurrents qui vont eux-mêmes enrichir l'apprentissage de la machine par la machine. Et on en vient évidemment, je vais dire, à. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, puisqu'elle est fondée justement sur les apprentissages de modèles artificiels. Alors, bon, dans la théorie des genres, on va pas aller jusque-là. Mais ça laisse envisager le fait qu'un jour, une machine pourrait elle-même automatiquement étiqueter notre texte. Non pas parce que dans le texte, elle va trouver que c'est la ronde, ça c'est facile à définir, les verts, mais trouver que c'est un traité et pas un essai, c'est pas sûr. En revanche, s'il y a une grosse masse de textes qui ont déjà été étiquetés en tant que traité, en tant que essai, etc., à ce moment-là, la machine va faire un apprentissage et va faire un certain nombre de raisonnements, justement, qui vont faire des connexions entre ces différents documents qui auront déjà été marqués ou édités comme ça. Donc, les techniques avancées, c'est effectivement tout ce qu'on va aller vers la visualisation graphique, les réseaux neuronaux, tout ça, ça fait des interrogations sur l'avenir de l'homme-machine. Dans les techniques avancées, il y a aussi cette problématique qu'on a. Le problème qu'on a vu tout à l'heure, c'est la gestion de l'annotation collaborative. C'est-à-dire que quand vous corrigez un texte, il faut que quelqu'un qui est un expert qui valide cette correction. Donc, si ça pourrait être fait automatiquement, ça éviterait à quelqu'un de passer derrière. Et, bon. Si la machine est capable de le faire, et la machine sera capable de le faire si elle-même elle a appris à le faire. Grâce effectivement à un certain nombre de données, déjà au moins statistiquement neuronalement, ont permis d'effectuer ce type de raisonnement que vous faites très vite et très rapidement dans le monde de tout ça. Alors, bon, je Je vais donner quelques aperçus sur les autres traitements que l'on peut faire dans les corpus qui sont des traitements de niveau matériel. Alors, j'ai mentionné tout à l'heure rapidement que l'on peut faire effectivement, en utilisant les méthodes scientifiques, une analyse des matériaux d'un texte, parce que l'édition papier, c'est du papier, justement, c'est de l'encre. Et on peut faire des études sur la nature du papier et sur la nature de l'encre pour donner des indications sur l'auteur, de, voilà, pas du papier, mais encore que ça puisse renvoyer à sa peinture ou à des produits de papier, mais sur les encres, vous avez ici l'exemple de Marie Bournet écrivant sous la dictée de Montaigne, et vous voyez que l'écriture n'est pas la même. Donc on peut effectivement, dire que le ductus, c'est-à-dire la façon de la main de Marie Bournet, n'est pas le même que celui de Montaigne. On retrouve ici, Montaigne écrit un mot en haut, ensuite il Marie Bournet et ensuite il reprend. Donc on peut imaginer que la machine, un jour, puisse dire tout seul, ça c'est de Marie Bournet, ça c'est de Montaigne. Bon. Un jour. Actuellement, il y a une autre méthode, c'est aussi d'utiliser les indications données par les encres. Parce que les encres ont des compositions chimiques. Enfin, ça veut dire que maintenant, les compositions chimiques sont étudiées par, actuellement, notamment à l'IRAMAS ici. Vous avez peut-être vu la présentation de Marie-Élève Coutou, c'était la même en juin dernier, justement sur ce travail-là. Donc, c'est par l'analyse du spectral par fluorescence X qu'on analyse sur une encre composée de tant de cuivre, de zinc, etc., sans prélèvement. C'est-à-dire que c'est une analyse optique, on va dire. Donc, actuellement, les manuscrits médiévaux sont souvent étudiés comme ça. Ça permet de donner une composition des pigments et des encres et de dater ce secret-là, permet de dater éventuellement le document. Donc ce sont des éléments pour lesquels effectivement il faut une technologie très développée, généralement assez chère aussi, et qui permet de compléter la connaissance que l'on a d'un document, pas forcément d'une édition bien sûr, mais d'un document. Ça donne une indication aussi, ça peut donner une indication sur qui a écrit quoi et peut-être même à quel moment. Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Oui, alors, c'est des éditions qui sont faites, ça peut être aussi, très augmenté. L'aspect générique, la construction d'un thésaurus, des types d'augmentation intellectuelle, conceptuelle que ça peut apporter. Mais il y a aussi l'adjonction à l'édition papier ou même à l'édition numérique normale, c'est-à-dire la transcription d'un texte, etc., en commun d'un texte, des éléments qui vont faire intervenir d'autres médias. Et on peut se demander si c'est encore de l'édition ou si c'est encore du corpus d'ailleurs. Parce que c'est toujours le même corpus pour l'effet édition sonore des essais, c'est-à-dire un acteur a lu les essais de Montaigne, c'est téléchargeable en MP3, donc on a, après tout, c'est quand même une édition, parce que pour établir le texte que l'acteur devait lire, j'ai dû quand même lui présenter un texte modernisé, j'ai dû changer quelques mots pour qu'il soit compréhensible, etc. Donc il y a quand même un travail éditorial derrière. Donc c'est quand même une édition numérique, c'est pas parce que c'est sonore, parce que c'est de l'ordre du son. Vous pouvez aussi, on l'a pas fait, on pourrait le faire, une édition sonore avec perception biorale. Vous avez déjà entendu ça, non? Alors
la lecture,
c'est pas très intéressant.
Ça pas intéressant. Donc l'immersion, oui, en complément de l'immersion avec la réalité virtuelle, mais c'est très intéressant.
Voilà, parce que ça pourrait être intéressant si vous voulez reconstituer le fait que, voilà, Montaigne dit qu'il écrivait, qu'il dictait ses essais en se promenant. Donc vous pouvez faire lire les essais par un acteur et il se promène. Avec la reconstitution bio-orale, vous aurez cet effet de promenade. Et ça demande un enregistrement pour tout refaire. Non ?
Oui.
Oui, c'est bien ça.
Oui.
Il faut tout refaire, parce que la prise de son n'est pas la même.
L'équipement vaut très cher.
L'équipement vaut très cher, pareil, c'est que ça démocratise, mais en fait, ce n'est pas encore fait. Et là, effectivement, vous avez des effets qui sont produits. Est-ce que c'est vraiment très intéressant ? Bon, on peut dire pourquoi pas. Pourquoi pas ? Là, on est peut-être plutôt du côté de la valorisation de l'édition, c'est-à-dire de présenter des effets, effectivement, on pourrait dire quasiment théâtraux, alors qu'on ne voit rien, alors qu'il n'y a que du son, parce que le système d'immersion est tellement saisissant. Hein, effectivement, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui se promène, qui passe derrière vous, qui va tourner autour de vous, etc., alors qu'on a juste un casque sur les oreilles. Est-ce qu'on comprend mieux le texte pour autant ? Mais c'est finalement, c'est, voilà, ça peut être une approche pour moi à tester. Voilà. Bon, bien sûr, d'autres médias, c'est une édition augmentée, c'est peut-être le lien dans le corpus avec des représentations théâtrales, etc. Pour Montaigne, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes, des films. Alors, les autres médias, ce qu'on a fait donc, dans le corpus Montaigne pour la 2D et la 3D, donc, c'est effectivement les poutres qu'on peut voir en Amsens, en 2D. En 3D, la reconstitution de la bibliothèque en tant que pièce de Montaigne avec des livres virtuels, une bibliothèque, des étagères virtuelles. Mais on peut aussi imaginer une réalité augmentée où on feuilletterait les livres en faisant le geste. Puisque maintenant, il y a la reconnaissance gestuelle. Mais actuellement, on est obligé de toucher, soit de cliquer, soit de toucher. Et puisque se développent maintenant des systèmes de reconnaissance gestuelle, on pourrait juste le faire comme ça, sans toucher quoi que ce soit. Bon, après, c'est peut-être juste une question d'ergonomie. Il faut penser, à chaque fois, ça ne sert à rien, c'est un gadget. Il faut penser aussi que peut-être que ce gadget deviendra standard. Je n'en sais rien, hein, je ne vois pas forcément aussi loin que ça. Mais il faut imaginer, hein, et avoir un peu de, justement faire un peu de prospective, se dire que peut-être qu'une édition numérique, ce sera aussi un feuilletage, non pas le laborieux feuilletoir comme on en voit encore plus souvent, mais justement une gestuelle beaucoup plus souple, à lire ou non d'ailleurs, au son bio-oral. Alors, on ne peut pas jusqu'à la restitution des émotions, ça commence à venir au cinéma, il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas dans les livres, mais effectivement, il y a des expériences qui sont faites dans ce sens-là. Il faut être dans un environnement, il faut être dans une pièce particulière, il faut avoir des trucs particuliers. Et puis, bon, tout ce qui est géographique, tout ce qui est localisation, tout ce qui est parcours dans un livre, que ce soit parcours abstrait ou un parcours concret, évidemment, ce sont encore des éléments de ce que j'appelle l'édition augmentée. Alors après, j'avais toute une série de diapositives sur les questions juridiques. Bon, j'ai parlé rapidement tout à l'heure des licences Creative Commons. Ce que nous, on essaie de faire, c'est de rendre accessible et que toute réutilisation en fait, des textes soit soumise à autorisation. Voilà. On demande autorisation avant de reprendre les gargantuas qu'on a laborieusement édités ou les essais de Montaigne. Mais, est intervenu il y a 2 ans un jugement, une décision judiciaire. Qui a décidé que finalement, c'est toutes ces éditions numériques dont je vous ai parlé, c'est tout ce qu'on a fait dans les systèmes, n'est pas protégeable, ne relève pas du droit d'auteur. Alors, ça pose quand même problème. Le texte établi n'est pas protégeable par le droit d'auteur. C'est la décision du jugement. La jurisprudence, en gros, qui a arrivé. Et donc, finalement, nous ne sommes que des scribes. Alors, il y a eu des rebondissements, mais ça y est, c'est passé en appel en juin dernier. Donc, l'édition de textes anciens, c'est-à-dire depuis 70 ans, hein, c'est plus de 70 ans, donc ça, je cite le texte du public, un travail du chercheur, donc, et non pas une œuvre originale. C'est-à-dire le travail du chercheur n'est pas une œuvre originale. Car, c'est un aspect créatif ou être le reflet de la personnalité de son auteur. Voilà, il n'y a pas, si par exemple vous faites une paraphrase des essais complètement idiotes, c'est protégeable par le droit d'auteur. Mais le scrupuleux, vraiment la décision scrupuleuse en ayant débuté sous les ratures, etc., non. Alors, ça change quand même l'image qu'on a de soi-même. Je ne vais pas vous décourager de faire de la recherche dans ce domaine-là, mais il faut savoir effectivement qu'il y a cette jurisprudence qui pose problème. Donc, la suivante, le savant ne cherche pas à faire œuvre de création, mais de restauration et de reconstitution, étant établi en construction la plus fidèle possible du texte, en reproduisant ses connaissances dans des domaines divers. Donc, finalement, il n'y a pas de différence entre l'édition savante, que je vous ai décrite tout à l'heure, et la facilité, c'est-à-dire la photocopie. Donc, bon. Poser la même question pour si c'est la même chose que ces articles faits de manière, etc. Parce que c'est assez créatif. Donc, voilà. Et finalement, des facsimilés, on pourrait faire le même statut. Alors, dans le corpus cahier, on a des textes qui sont d'origine diverse, qui sont plus ou moins anciens, et on a aussi des textes qui ont été, dont les droits sont conservés par les éditeurs. Et donc, même les auteurs eux-mêmes ne peuvent pas reprendre leurs propres textes qu'ils ont donnés à l'éditeur parce qu'ils ont signé un contrat. Donc, on a des droits juridiques comme ça, des éditeurs, je crois que c'est dessus. Et donc, on nous a dit, mais quand vous mettez une licence Creative Commons restrictive en disant qu'il faut voler l'autorisation, en fait, ça n'a aucun. Ça n'a aucun intérêt, aucun sens. Et ça n'a aucune valeur juridique. Alors, je vais donner un exemple pour vous montrer que c'est quand même un peu délicat. Donc, il y a une édition de Montaigne qui est particulièrement difficile. Bon, là, en plus, c'est défendu parce que l'image est plus grande. Et personne n'avait jamais réussi à lire. Sauf Alain Le Gros et. Et ils ont fini par réclamer la première montre que je n'espère pas compléter. Voilà, ils ont déchiffré ça. Et ça, c'est de la transcription sans valeur. C'est quand même un problème, parce que pour aller déchiffrer ça, il faut quand même l'avoir regardé, re-regardé, re-regardé le texte. Hein. C'est pas. Donc là, et dans ce jugement de regarder, ils ont fait une professeure de l'indépendance, qui expliquait que l'édition, notamment de textes médiéval, en comparaison de l'écrit, c'était vraiment un travail de saison, et ça n'a rien à faire. Donc voilà, or c'est comme si la transcription était faite, et même l'encodage, il n'en est même pas question d'ailleurs dans ce jugement, apparemment l'encodage est protégeable. Et l'encodage, c'est ce qu'il y a sous l'édition. Donc, à la limite, votre fichier TEI, lui, est protégeable, mais pas la version HTML qui est en ligne, et qui est l'affichage, en fait, de tout ce travail dont la TEI est en rencontre. Donc, il faut, on dit bien, un opérateur de saisie, un prestataire ou un lycéen, ne peut pas lire les passages difficiles, ne peut pas repérer les copies d'imprimés s'il ne connaît pas bien la langue, ne peut pas les encoder, ne peut pas les corriger à l'aide d'un autre exemplaire, etc. Tout ça, ce n'est pas son travail, pas pour ça qu'il est payé. Il ne peut pas repérer les fautes de l'auteur, il ne peut pas proposer des corrections assumées, etc. Il ne peut pas marquer les noms propres, parce que savoir ce que c'est qu'un nom propre, ça n'est pas si évident. délimité, précise. Hein. Et puis, il ne peut pas non plus enrichir avec un balisage spécifique. Alors, les propositions que je fais pour une espèce de reconnaissance de ces missions numériques, c'est que d'abord, la première chose, vous signez un contrat où vous donnez à l'éditeur tous les droits sur votre édition, c'est la première chose. Vous signez un contrat, mais il faut modifier la clause dans ce sens pour dire que vous restez propriétaire de l'édition établie en commun que vous avez faite. C'est modifier les contrats de l'un qui restreignent la diffusion en ligne des données acquises sur fonds publics. Supprimer la dénomination de transcription au profit de la distinction entre transcription du texte fournie par un prestataire ou un ICR et une édition enrichie, c'est-à-dire expert, celle qui offre des fonds. Déposer le texte en PDF sur Anne, parce que Anne n'accepte pas les XML. L'envoi sur PDF, ça fait une grâce. Voilà. Et déposer la structure de votre corpus sur Anne, quelque part. Hein, donc il faut qu'il y ait. Et déposer, donc, les noms, les auteurs. Sur la demande sociétale, j'ai terminé les dernières diapositives avec le mot humanisme de l'humanité numérique, parce qu'il y a un peu, par plusieurs fois, on a entendu que les humanités numériques, c'était le retour de l'humanisme, c'est-à-dire cette période de la Renaissance, de l'apparition du livre, les grands idéaux humanistes, notamment les grands idéaux humanistes de la période de la Renaissance. Bon, c'est vraiment très, très, très discutable quand on voit effectivement des souverains parfaitement humanistes déclarer la guerre aux autres, comme voilà, c'est pas forcément. Exactement cela qu'on attendait, quand on a eu des croisades. Donc, l'humanisme, ça abonde pour justifier justement cet humanisme numérique. Et on a l'impression, effectivement, qu'on a un effet du Magnon, hein, c'était Frankenstein, c'est-à-dire on a construit un monde. Ce que fait Matrix, c'est la machine qui a fait le climat. C'est pas des enjeux. Moi, je suis relativement pessimiste, mais je fais quand même quelques pronostications. Donc, la notion de pronostication, je la prends à Rabelais, qui écrit des pronostications. Et j'imagine, mais au conditionnel, hein, que l'intelligence artificielle permettrait l'apprentissage des corpus écrivés par eux-mêmes, que l'intelligence artificielle permettrait de lire les textes les plus difficiles, on a vu tout à l'heure. La modernisation des graphismes automatiques et donc la traduction. Le stockage des données serait collaboratif. On a le stockage des données, c'est pas bon. Hein. Et enfin, la lecture linéaire disparaîtrait au profit de l'innovation de la réalité augmentée. Et finalement, est-ce que la notion du corpus aurait encore de la pertinence? Voilà, je termine par un point d'interrogation.